Bonjour à tous. Merci pour tout ce qui est apporté avant. Mais ce que j'ai eu sur le cœur de vous partager ce matin, c'est en rapport avec l'identité, même si je n'avais pas mis ces mots-là, mais en fait, le vêtement qui vient d'être donné ce matin, il recouvre toute la prédication que j'avais prévu, mais j'avais pas pensé à ces termes, mais ça recouvre entièrement tout ce que je vais vous partager ce matin. Je vais vous parler de la transformation que le Seigneur opère en nous par le Saint-Esprit. Alors c'est vrai, il n'y a pas une perte de l'identité, mais il y a une transformation profonde de nous-mêmes. Et je ne me suis pas pris en exemple parce que le travail est loin d'être terminé. On va parcourir dans la Bible l'exemple de Pierre. Alors c'est vrai, quand on parle de la transformation par le Saint-Esprit, on peut penser à l'apôtre Paul qui a été foudroyé un jour et complètement transformé. Mais bon, cet exemple, il est couramment pris, c'est un grand classique. Alors, on va plutôt se pencher sur la personne de Pierre, qui est quand même aussi très intéressante. Il avait des traits de caractère qui étaient en lui avant que Jésus ne le rencontre. Et on va observer, étudier, grâce à la parole de Dieu, comment il était avant et comment il est devenu après. C'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus. Alors, pourquoi j'ai eu ça à cœur? En fait, ça date de quelque temps, hein, quelques semaines. J'avais relu les épîtres de Pierre et bon, moi, quand je lis la Bible, je pioche pas à droite à gauche avec un plan de lecture. Il y en a qui aiment bien ça, si je le respecte, hein. Et moi, je prends un livre et je m'y tiens, je le lis. Et même s'il y a des endroits on peut se dire, je suis pas concerné par ça, ben moi, je suis convaincu que le Seigneur, il a des choses à m'apprendre, à me dire. Et quand j'ai parcouru les épîtres de Pierre, j'ai vraiment été touché, pourtant je l'avais déjà lu plein de fois avant, j'ai été touché d'une façon très particulière sur ce qu'il est devenu, sur sa façon de parler des choses désormais après, parce que quand il a écrit les épîtres, c'était bien après les actes, hein, le Saint-Esprit avait fait un sacré boulot en lui, et si on regarde le Pierre d'avant, tout jeune, au temps de Jésus, quand Jésus était là, quand il l'a rencontré, toutes les descriptions ces réactions surtout qui nous sont décrites, et quand on le revoit plus loin de ce qu'il dit dans ses épîtres, on se dit à juste titre, waouh, c'est plus. C'est toujours Pierre, il y a toujours des choses qui sont là de lui, mais il a été transformé. Et pour rebondir sur ce que mon épouse est en train de faire avec son entreprise qui s'appelle Papillon d'Azur. Ben, vous savez, avant d'être un papillon, on est quoi? Enfin, je dis on, c'est comme si c'était nous, mais on est transformé aussi. Vous savez, l'ancêtre du papillon, c'est la chenille. Et c'est quand même merveilleux. Je dirais, ouais, Manu, il parle toujours de la nature. Mais n'empêche qu'il y a plein de choses dans la nature. Le papillon, avant d'être un papillon, il est une chenille. Et nous, avant de rencontrer Jésus, on est des chenilles. Et le Seigneur s'intéresse aux chenilles que nous sommes, et on va passer par une sacrée métamorphose, une transformation de fond en comble par le Saint-Esprit, et on va devenir, et on est en train de devenir, des papillons. Et un papillon, quand on compare avec une chenille, ça n'a plus rien à voir. Mais pourtant, à l'intérieur, le papillon, il doit sûrement, j'ai pas pu en interviewer un encore, mais sûrement que ce papillon, il se souvient quelque part que, bah oui, avant il était une chenille. Il y a encore des choses en lui, des traits de la chenille qu'il était, mais tout a été régénéré. Maintenant, il vole et il voit les choses non plus d'en bas, parce qu'en bas, bah, il rampait. Pour aller sur un arbre, bah, il fallait grimper sur le tronc, les branches, aller tout au bout, les feuilles. Ben maintenant, il vole. Il vole, il est libre et il est léger, il peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et pourtant, à l'intérieur. Il y a encore les germes, il y a encore les choses d'avant. Mais tout a été transformé. Alors, on va commencer à parcourir. Bon, je vais essayer d'avoir un chrono dans le ventre pour aller vite, hein, parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir terminer. Mais c'est vrai que c'est trop petit. Daniel, il le disait il y a pas longtemps. Hein. C'est vrai que c'est petit pour poser sa feuille et plus la Bible. Hein. Alors, on va commencer par observer Pierre. Alors, on va un peu s'amuser, hein. On va rigoler par moments. On va observer le Pierre que moi j'ai appelé le Pierre d'origine. Le Pierre que Jésus a appelé à son service. On va aller voir dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 23. Je n'entends pas beaucoup de pages qui tournent, mais je crois que tout le monde est prêt. Donc, Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je, au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre, c'était quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui pétait la forme, quelqu'un, j'ai envie de dire, d'épidermique. Hein, dès que, il y avait un truc, pam! S'il y avait un disciple qui devait réagir au quart de tour, c'était Pierre. Et là, Jésus, il a posé des questions. Qui dites-vous que je suis? Enfin, qu'est-ce qui se dit de moi? Bon, ils ont tous dit, ils ont pris la parole, on ne sait pas trop lesquels, mais en tout cas, ce n'était pas Pierre. Et bon, ouais, il se dit ça de toi, un prophète. Et puis Jésus, après, il s'adresse à eux personnellement. C'est plus pour dire, bon, ce que les autres disent, vous, et vous alors, qu'est-ce que vous dites? Et là, bam, Pierre, quart de tour, il s'allume tout de suite. Ah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre y percutait et il avait très bien compris qui était Jésus et il avait su placer les mots sur ce qu'il avait compris. Et il a réagi tout de suite. Et Jésus, il a réagi aussi rapidement. Et on va voir là la réaction de Pierre, qui est moins heureuse que la précédente. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et là, Jésus, il ouvre une magnifique perspective de carrière spirituelle pour Pierre. Imaginez Jésus qui lui dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, tu t'appelles Pierre, toi. » Et sur toi, sur le roc que tu es, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Waouh! Pierre, il entend ça. Le Pierre, avec toutes les sens qu'il a, tout le caractère qu'il a, cette fibre qui s'enflamme tout de suite. Et Jésus qui lui dit ça. Bon, mais ça c'est génial. Et peu de temps après, dans la foulée, Jésus continue. Il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais là, Pierre, lui, il était déjà parti. Il s'était déjà envolé. Ment avec les perspectives que Jésus venait d'ouvrir. Mais il a dit à Jésus, non mais ça va pas, non. On le lit juste après. Hein. Pierre l'ayant pris à part. Ça veut dire, il a pris Jésus par le callback, hein. Hey, Jésus, tu vas venir faire un petit tour par ici. Non, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu racontes? Non, mais ça ne va pas. À Dieu ne plaise Cela ne t'arrivera pas, mais il n'en est pas question. Tu vois pas ce que tu viens de dire? Je vais tenir la clé du royaume de Dieu, mais j'ai besoin de toi. Tu vas pas être tué quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Et que lui répond Jésus? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Mais Pierre, je viens de te dire quelque chose, mais t'as rien compris. T'as rien compris du tout. Et pourtant, les paroles de Jésus, elles étaient prophétiques. Mais Pierre, il regardait avec ses yeux terrestres. Il n'avait pas compris la portée spirituelle des paroles de Jésus. Et ça, c'est le Pierre d'origine. Il voyait les choses avec un regard terrestre, regard de la terre. Et on va le voir à beaucoup de reprises. C'était dans ses fibres. Lui, c'est pas parce qu'il côtoyait Jésus qu'il était converti. C'est pas parce qu'il côtoyait Jésus que le Saint-Esprit était venu habiter en lui. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé sur les disciples. Il était un sympathisant de Jésus. Ah, il aimait Jésus quand même, il avait compris des choses. Mais pas tout. Pas tout. Il n'avait pas compris que Jésus devait mourir. Vous voyez, toutes ces dimensions spirituelles du projet du plan de salut de Dieu pour l'humanité, Pierre, ça lui avait complètement échappé jusque-là. Il n'avait pas compris. Il regardait avec ses yeux terrestres. Et vous rendez compte que dans sa vision terrestre, ça ne le dérangeait même pas de reprendre Jésus. D'oser dire à Jésus, mais non, mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de dire? Ça va pas. Et il était vraiment persuadé d'avoir raison. Hein. Ça me rappelle, moi, nous, on est persuadé d'avoir raison quelquefois, face au Seigneur. Parce que nous, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas ce que le Seigneur voit. On va continuer. Ce même Pierre, plus loin, alors que, on va peut-être pas tout lire, hein, parce que ça va prendre trop de temps, mais je vous invite à aller le lire dans Jean 6, 68. Jésus, il vient de parler de la prédestination. Vous connaissez ce sujet, hein, c'est un sujet qui est compliqué à comprendre. Et Jésus, c'était pas un politicien, hein. Les politiques, vous savez, ils font tout pour garder leurs adhérents. Ils se battent et tout. Et Jésus, il venait de parler de la prédestination et il y en a qui ont dit « Non, là, moi, je lâche. » Et des disciples sont partis. On ne sait pas lesquels, mais ils ont lâché. Et Jésus s'adresse aux 12 qui sont encore là avec lui et il leur dit pas « Surtout, vous restez avec moi, hein, ne me lâchez pas. Hein. » Il leur dit « Et vous, là ?» Vous êtes sûr que vous restez? Vous pouvez y aller hein, si vous voulez. Il les a pas retenus. Jésus voulait des volontaires, des personnes convaincues. Et Pierre, il faisait partie de ces gens convaincus. Vous savez ce que Pierre a répondu quand Jésus a proposé de partir? Et c'est une parole que j'aime beaucoup. Pierre a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Encore une fois, il y en a un seul qui a pris la parole. C'était Pierre. Oui, il y avait des choses bien et il y avait des choses pas bien. Il y avait du mélange. Et tout cohabitait dans son cœur, dans ses fibres, dans son être. Et de temps en temps, il y avait des choses pas bien qui sortaient, puis de temps en temps, il y avait des choses super qui sortaient. Et là, vraiment, c'est une magnifique confession que Pierre a fait. Et j'aime bien la dire à mon Seigneur. À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je? Sinon à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais il n'y a que toi, Jésus. Qui m'a porté le salut, qui m'a fait tout ça dans ma vie. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cette œuvre et chacun de nous, on peut le dire, le confesser au Seigneur. Seigneur, à qui irai-je ? Vous savez, quand on a compris l'amour du Seigneur, quand on a compris tout, quand on a perçu dans nos fibres tout ce qu'il a fait en nous, on ne peut pas aller voir ailleurs. Ce n'est pas possible. Ou alors on se ment à soi-même, on renie tout. Mais là, il faut vraiment se tordre l'esprit. Il faut vouloir sa perte. Mais si on est droit et honnête, on ne peut pas aller voir ailleurs. Ce n'est pas possible. On va continuer dans Matthieu, chapitre 14. Au verset 28, donc je vais juste vous décrire le contexte, mais bon, ce sont des histoires qu'on connaît tous, hein. Les disciples, ben voilà, ils sont dans la barque, et puis c'est la nuit, il y a de la tempête, et puis ils se battent contre la nature, contre les éléments, et puis d'un seul coup, bah, une apparition. Il y a quelqu'un qui vient là, au beau milieu de la nuit et de la tempête, et en plus, ce quelqu'un, il marche sur l'eau. C'est du jamais vu. Et là, les disciples, ils... un fantôme ! Un fantôme ! Et là, Jésus leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. C'était Jésus. Et là, ben, encore une fois, il y en a un seul qui réagit au quart de tour. Devinez qui ? C'est Pierre. Pierre, avec son... Il est extrêmement trépidant, ce Pierre. Et là, Jésus, quand Pierre réalise, « Ah Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» Il n'y en avait qu'un seul dans la barque pour dire ça à Jésus. Hein. Un seul qui avait, « Ah, c'est une tête brûlée, hein, un fonceur !» Eh bien, Jésus lui a dit, « Bah vas-y, Pierre, viens !» Et Pierre, il est descendu de la barque, vous l'imaginez, hein, il descend de la barque, mais d'habitude, il descend de la barque, c'est pour mettre les pieds sur la berge. Ou alors sur le bord de l'eau, là où il n'y a plus beaucoup d'eau. Mais là, il descend de la barque et c'est la mer. Et il marche sur l'eau, comme son maître. Waouh ! Comme Jésus, vous vous rendez compte ? On n'a jamais vécu ça, hein ? Mais il marche sur l'eau. C'était du réel. Tout le temps qu'il regardait son Seigneur, ça allait. Et puis, d'un seul coup... Oh, Maïs, il y a de la tempête, ça bouge. Et il s'est mis à avoir peur et il s'est enfoncé. Mais quand même, il venait de vivre une superbe expérience. Sa vivacité, son audace, un peu comme David de tout à l'heure face à Goliath. Pierre, il avait de l'audace et il est allé, il y est allé. Et il a réussi au début. Il a marché. Après, ben, il a eu peur, quoi. Il y avait des choses bien. Et il y avait du mélange. Et là, ben, les côtés moins bien, la crainte, la peur, tout ça, ça a surpassé ce qui était bon. Et puis, il a coulé. Mais, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, Jésus, dans son amour, ne l'a pas laissé couler. Il l'a attrapé alors qu'il s'enfonçait et il l'a relevé. Et puis, bah lui a quand même expliqué, hein, bah ouais, ta foi, Pierre, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et puis, il l'a monté dans la barque et puis l'aventure s'est terminée. Mais encore un trait de caractère du Pierre. C'est un fonceur. Sur le coup, il n'a pas peur. Il ne réfléchit pas. Il y va. Hop, il y a un truc. Allez, c'est le Seigneur, on y va. Et c'est beau quand même. Ce n'est pas un reproche que je lui attribue. Hein. Et vous savez, c'est lui hein, que Jésus a choisi. C'est parce que Jésus, il a aussi besoin de fonceurs. Il a besoin d'être régénéré, besoin d'être mis à neuf, quoi. Mais il y a des choses dans notre identité, que le Seigneur a planté depuis notre naissance. Et ces choses-là, le Seigneur veut les utiliser. Mais, ouais bon, il faut une régénérescence. Il faut que tout revête un nouveau vêtement. Mais il y a des choses que Dieu a semées qui sont en toi, qui font partie de ton essence, et le Seigneur veut s'en servir. On va continuer. Ça va. Matthieu dit, j'ai essayé de rester dans Matthieu hein, pour avoir le moins de pages à tourner. Matthieu 17, chapitre 17, là encore on ne va pas tout lire, mais n'hésitez pas à relire tout ça pour ceux qui prennent des notes. Donc Matthieu 17, verset 4, on arrive à la transfiguration. Pierre a fait partie des heureux élus que Jésus a pris pour vivre cette énorme expérience. Donc ils sont là-haut sur la montagne. Vous connaissez la transfiguration? C'est une expérience complètement spirituelle, surnaturelle. Les disciples ont vu le corps spirituel de Jésus. Ils ont vu Moïse, Élie discuter avec lui. C'est... Vous imaginez comment, si on était à leur place, c'est une expérience complètement merveilleuse. C'est du céleste qui est venu là-haut sur la montagne. Et Pierre, le Pierre spontané, avec, j'aurais envie de dire, avec ses gros sabots encore. Ben ouais, parce que ben, on voyait là Jésus, le Jésus spirituel, son corps spirituel, son corps céleste avec Élie et Moïse. Et puis, qu'est-ce que trouve Pierre? Qu'est-ce qu'il trouve à dire, lui? Ah ben, on va bâtir des tentes. On est bien là, hein? Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, puis une tente pour Élie. Oh Pierre, encore une fois, t'as rien compris. Est-ce que ces corps célestes ont besoin d'une tente terrestre? Mais enfin, Pierre. Hein? Jésus l'a pas relevé, ça. Mais bon, c'est vrai, Pierre, c'était pas une mauvaise intention. C'est vrai que c'était super d'être là avec ces trois personnes qui parlaient. C'était céleste. Leur corps est devenu complètement transparent, tout ça, mais c'était beau, c'est indescriptible. Et Pierre aurait aimé que ça dure encore plus longtemps. Et pour que ça dure plus longtemps, il fallait installer des tentes, comme ça on pouvait dormir là. Mais vous riez aussi, vous, hein. Mais Pierre, je vous assure, il était sérieux. Il voulait que cette expérience, elle durait. Il avait vraiment envie de rester là et de respecter ses hôtes spirituels et leur offrir un toit. Mais encore une fois, Pierre, il regardait avec des yeux profondément terrestres. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Beaucoup plus loin, avant que Jésus ne soit arrêté, dans Jean 18, 10, c'est encore Pierre, le Pierre spontané, qui n'a toujours pas compris le plan de salut, qui n'a toujours pas compris que Jésus doit mourir crucifié sur la croix. Eh bien, il sort son épée et il espère réussir à mettre fin à cette folie qu'il voit arriver, Jésus qui va se faire arrêter. Par ses propres moyens, il va essayer d'arrêter cet horrible destin et il va couper l'oreille de Malchus. Vous vous rendez compte, ils vont arrêter Jésus ? Et pourtant, je lui avais dit à Jésus que ça n'allait pas lui arriver. Et moi, je ne veux pas que ça arrive. Alors, il se défend. avec sa force à lui, avec sa vision. Et il veut changer le cours de l'existence, le cours des choses, ce qui est en train de se dérouler là. Il veut l'arrêter. Alors il sort ses propres moyens et il y va. Mais Jésus, il répare tout de suite cette erreur. Il guérit Malchus et lui recolle l'oreille et on continue. Parce que Jésus, lui, il savait pourquoi il était là. Plus tard, quand Jésus est ressuscité, Jésus se représente aux disciples et là encore, il dit aux disciples, n'avez-vous rien à manger? Et là, les disciples ne l'avaient pas reconnu. Et quand les disciples répondent, on a pêché toute la nuit puis on n'a rien trouvé. Et là, Jésus leur dit, jetez votre filet du côté droit de la barque. Et ils le font et ramassent plein de poissons. Et là, il y a Jean qui dit, lui là-bas, on le reconnaît maintenant, c'est le Seigneur. Et il en est encore un seul, dans sa spontanéité, qui fonce. C'est Pierre. Et il fonce tout droit vers Jésus, à la rencontre du Seigneur. Et il laisse tomber ses coéquipiers, ses pêcheurs. Il laisse tout tomber. Ah, parce qu'il est content. Il a retrouvé le Seigneur. Et ce même Pierre, dans l'énergie qu'il déploie dans tout ça, dans Luc 22-23, il déclare au Seigneur avant qu'il ne soit crucifié, « Mais Seigneur, je suis prêt à aller à la mort avec toi. » Parce que Pierre, il était convaincu qu'il était capable de tout pour le Seigneur, mais avec ses propres forces. Et là, Jésus, qui connaissait tout, il lui a dit, « Tu sais, Pierre, dans pas longtemps, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras déjà renié 3 fois. » Et Daniel en a parlé la semaine dernière de ça. « Tu sais, Pierre, tu crois des choses. Tu crois que tu as la force. Mais tu sais, tu tiendras pas là. » Et Pierre, il était convaincu, sûrement, c'est pas dit, mais il était sûrement convaincu que le Seigneur était encore en train de se tromper. Et c'est sûrement pour ça qu'un peu plus tard, quand le coq a chanté, pardon, il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Parce que Pierre, il était en train de commencer à découvrir. J'ai pas la force. Jésus avait raison. C'est Jésus qui avait raison. J'ai vraiment besoin de son aide. Et nous, quelquefois, on ne compte pas sur nos forces. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois où on croit qu'on va y arriver en comptant sur nous-mêmes, comme Pierre le fait, comme Pierre le faisait? Non, ça ne vous arrive pas? Je pense que si. Moi, le premier. Et je sais qu'avant, je savais que j'avais beaucoup de force. Je faisais beaucoup de sport. J'étais hyper endurant. Et un jour, j'étais frappé par la maladie. Mais avant ça, je savais que je tenais bien le coup. Parce que je faisais attention à ma santé, je m'entraînais, j'en voulais. Et puis, j'étais gagné par la maladie. Jusqu'au jour où il ne restait plus rien de moi. Plus rien. Je n'avais plus de force. Tout à l'heure, Étienne disait, il était essoufflé, rien que de venir jusqu'ici. Moi, c'était pareil. Ma cage thoracique était tellement verrouillée par l'inflammation, toutes les articulations faisaient mal. Je pouvais plus respirer en ouvrant ma cage thoracique. Ça faisait hyper mal et le moindre petit mouvement, ben, j'étais essoufflé parce que je ne pouvais plus remplir, je ne pouvais plus respirer normalement. J'avais tout perdu, j'avais été laminé. Et le Seigneur m'a rendu la santé. Et aujourd'hui, quand j'arrive à faire quelque chose, quand j'arrive à courir, à faire du vélo, à me défouler, je sais que ce n'est pas moi. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. C'est lui qui m'a redonné la santé. C'est par sa grâce que je peux le faire. Et il y a un verset d'ailleurs qui le dit dans 1 Corinthiens 4, 7. Ça a été cité tout à l'heure. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. On n'a rien par nos propres mérites. Il n'y a rien qu'on possède et qu'on a eu par nos propres mérites. Tout ce qu'on a, c'est une grâce de Dieu. Même le boulot qu'on a, le salaire qu'on a à la fin de chaque mois, c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Et on se doit d'être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'on a, parce que tout vient de lui. Et on ne peut pas faire comme Pierre. Ah! De ce côté-là, ben, se dire que c'est par nos mérites, c'est par nos forces qu'on y arrive. Non, c'est par la grâce du Seigneur. Et quand le coq a chanté, ben Pierre s'est souvenu que Jésus lui avait prophétisé. Et là, je crois que ça a été un tournant dans sa vie. Ce Pierre qui était si fort, si percutant, il s'est mis à pleurer amèrement. Et vous savez, l'amertume, ce n'était pas contre Jésus, c'était contre lui-même. Il avait compris qu'il était incapable d'aller jusqu'au bout, qu'il avait besoin de Dieu pour continuer. Maintenant, on va passer au nouveau Pierre. Le Pierre qui est l'écrivain des épîtres de Pierre. Alors, on va deviner, hein, on va tourner un petit peu nos pages. Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, Pierre. Et là, on va regarder comment Pierre, quels sont ses premiers mots dans les épîtres. Et ça, c'est marquant. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Élus par la prescience de Dieu. Donc ce n'est pas par tes forces. Et ça, Pierre, il avait fait du chemin avant d'arriver là, hein. Il avait compris que s'il était là, ce n'était ni par ses propres forces, ni par son mérite, ni par son caractère fonceur, ni par tout ce qu'il avait pu essayer de faire dans sa vie. C'était uniquement parce qu'il avait été élu par Dieu. Et chacun de nous ici, il n'y en a aucun qui est là parce qu'il est plus fort que les autres. Il n'y en a aucun qui est là parce qu'il est mieux que les gens du dehors. On est là parce que on a été élu et choisi par Dieu. Donc si on pense qu'on a du mérite, on se trompe. On est là parce que Jésus nous a choisis. Et Pierre, avant, moi je suis sûr qu'il croyait que ah, Jésus l'avait choisi parce que ah, il avait ce qu'il fallait. Hein. Il avait l'audace, il avait l'énergie, il avait la force, la fougue qu'il fallait pour être un bon disciple. Mais là, dans son épître, il avait fait du chemin, il avait compris que non, non, non. Il était là parce qu'il avait été choisi par Dieu. Verset 4, j'ai déjà tout lu. Verset 3, 4, je ne l'ai pas lu. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Waouh ! C'est plus les mêmes paroles que le Pierre d'avant. Ça, ce sont des paroles qui viennent du ciel. Des paroles qui parlent des choses célestes. C'est plus le Pierre qui est en train d'essayer de planter une tente pour trois corps célestes. Il a compris que on se bat aujourd'hui pour un héritage. Et l'héritage, c'est pas ici, c'est là-haut. Et il n'y a aucun de nous qui se bat dans la vie pour avoir un héritage terrestre, pour être plus riche. On se bat tous pour l'héritage qui est là-haut, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Parce que tout ce qui est d'ici-bas, ça partira en fumée. C'est perdu. On en a besoin pour vivre. Il faut bien travailler pour se nourrir, mais ça ne peut pas être notre objectif. On se bat pour là-haut, pour cet héritage qui est là-haut. Et ça, Pierre, il avait fait du chemin pour réussir à le comprendre. D'ailleurs, au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Vous savez, ce Pierre d'avant, ben, il se serait battu pour qu'il n'y ait pas ces trucs-là, ces épreuves terrestres. Hein. Il ne voulait pas de cette épreuve de Jésus. Et il a sorti son épée pour couper l'oreille de Malchus. Il était prêt à défendre Jésus pour éviter tout ce truc-là. Ça n'allait pas, ça ne collait pas avec ses perspectives. Mais là, il a compris que bah ouais, tous ces trucs-là, c'est des bobos terrestres. Et tous ces petits bobos terrestres, ben, on en a besoin. Parce que ça nous aide à nous détacher de la terre. Pour qu'à l'intérieur, il y ait des choses nouvelles qui poussent. Pour qu'à l'intérieur, ce qui a été semé, qui est céleste et qui vient de Dieu, puisse grandir. Et pour que ça puisse grandir, ben il faut que ce qui est ancien meure. Il faut que ça meure. Et c'est normal, et c'est voulu par Dieu. Et si on se bat pour que ça vive, ben on n'est pas dans le courant de Dieu. On est à l'envers. Il faut que les choses terrestres meurent. Et si ça ne meurt pas, ça ne pourra pas ressusciter en nouveauté de vie. Et ça, Pierre, il l'avait compris. Et si on est attristé parce que bah, y a des circonstances difficiles, ben c'est normal. C'est normal qu'il y ait des circonstances difficiles. Et si on revient à l'histoire de la chenille tout à l'heure, et une fois Sophie avait merveilleusement raconté cette histoire de la chenille qui souffre, qui a du mal, et que si quelqu'un voulait l'aider, découper un petit peu le cocon duquel elle a un mal fou à sortir ce long tunnel, eh bien, le papillon ne pourra pas voler parce qu'il n'aura pas la force. Les muscles ne se seront pas développés pour la motricité des ailes. Et si on a ce tunnel à franchir, c'est parce qu'il faut que les muscles se développent. C'est parce que le Seigneur sait qu'on en a besoin. Et ces bobos terrestres, ils sont nécessaires pour revêtir le corps céleste auquel nous sommes destinés à revêtir. On va continuer dans 1 Pierre 1, 12. On a de la chance, hein, tout se suit, c'est vraiment pas loin. Et ça, j'aime beaucoup J'ai beaucoup été touché quand j'ai relu ça, même si je l'avais déjà lu plein de fois. Ce Pierre qui, oh, quand il a écrit ces paroles, mais on a l'impression qu'il est au ciel quand il a écrit ça. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ça veut dire que là, il est en train de parler des prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé la venue de Jésus, le salut, le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Il a été révélé à ces prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qu'ils nous ont annoncées à maintenant, à nous. Hein, l'évangile que le Saint-Esprit envoyait du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ça m'émerveille, moi, ça. Les anges qui désirent plonger leur regard dans l'évangile. C'est curieux, hein? Il y en a un seul qui mentionne ça dans la Bible, c'est Pierre. Ben on dirait que ah, il est devenu un papillon et maintenant il voit les choses d'en haut, les choses célestes. Il a eu des révélations divines et Dieu lui a révélé que les anges, en fait, ils sont passionnés par le salut que Dieu est venu offrir aux hommes. Ils désirent plonger leur regard parce qu'eux, ils ne sont pas concernés par ça. Ce n'est pas pour eux. Mais ils sont passionnés par ce projet que Dieu a pondu, a forgé, a créé pour sauver l'humanité. Pierre, je vous assure, avant, il ne pouvait pas voir ça. Il n'a pu voir ça que parce qu'il a été complètement transformé quand il a été baptisé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a fait son œuvre en lui. Et j'aurais pu citer sa première prédication quand il a pris la parole. Vous avez compté le nombre de conversions? Allez voir dans les Actes des Apôtres. 3 000. Ça, c'est efficace. Hein? Eh oui, le Saint-Esprit avait fait de ce Pierre quelqu'un de complètement nouveau. Alors, et toujours, il fallait quand même quelqu'un d'audace hein, pour prendre la parole. Et cette audace, Dieu s'en est servi. Mais le reste, il a fallu que ça meure. Pour que ce qui était céleste puisse briller, grandir. Et dans 2 Pierre chapitre 1, versets 15 à 18. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cet endroit-là quand je l'ai redécouvert. Pourtant, j'avais déjà lu ça plein de fois, hein, mais jour-là, ça m'a, enfin, dans cette période-là, ça m'a marqué. C'est Pierre qui parle toujours, hein, puisqu'on est dans son épître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez Pierre qui dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Oh! Il avait réalisé que ce jour-là, son oreille avait entendu la voix de Dieu. À l'époque, il n'avait pas compris, hein, parce qu'il n'aurait pas proposé des tentes. Hein. Mais là, il avait compris. Waouh, ce jour-là, j'avais entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu qui parlait de Jésus et qui disait de lui: Il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a réalisé, Pierre, quand il a écrit ça, il avait réalisé qu'il avait eu, j'aime pas dire une chance, un privilège énorme d'avoir entendu la voix de Dieu qui prononçait ces paroles sur Jésus. C'était merveilleux. C'était. Quand il lit ça, hein, il a reçu de Dieu, mais il fit entendre une voix qui disait, mais ce sont des mots qui expriment cette expérience qu'il a vécue et il en avait depuis mesuré la grandeur. Et c'est merveilleux. Il en parle là maintenant, c'est plus le même Pierre. Ça, c'est un Pierre qui est devenu un papillon et qui voit les choses d'en haut et il les regarde comme Dieu voulait qu'il les regarde désormais. Il avait compris que ben, l'expérience qu'il avait vécue, elle était céleste. Il avait compris plein de choses et on le voit. Et si vous lisez vous-même la suite, parce qu'on ne peut pas tout lire, mais lisez-le et comparez avec le Pierre d'avant. Et puis essayez d'imaginer, de réfléchir. Parce que maintenant, il faut qu'on s'approprie tout ça. Il faut qu'on s'identifie à tout ça. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est encore ce Pierre terrestre? Ou est-ce qu'on est ce Pierre qui a beaucoup avancé, qui a été métamorphosé? Ce Pierre qui est devenu un papillon, c'est plus la chenille d'avant, hein. Il a considérablement changé. Et ce que je veux qu'on se dise, moi c'est ce que j'ai eu sur le cœur, c'est il faut qu'on s'interroge maintenant. Seigneur, où en suis-je? Est-ce qu'il y a encore en moi cette chenille? Ou est-ce que je suis arrivé au bout du tunnel pour devenir ce papillon? Est-ce que mes ailes se sont ouvertes? Ou est-ce que je suis encore dans ce long tunnel à me débattre avec mes propres forces, à vouloir faire les choses comme moi je l'entends, avec ma vision, avec mon caractère, avec mes fibres, avec moi? Il ne faut pas qu'on en soit encore là. Il faut qu'on s'envole. Il faut que la chenille, elle meure. Parce que le Pierre d'avant, il est mort. Il a pleuré amèrement sur lui-même. Il s'est repenti sur lui-même. Et il est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu ce papillon. Et vous savez, on va pas tout lire. Ce serait peut-être un petit peu trop long, mais quand Jésus, après la résurrection, il s'est adressé à Pierre, vous savez, il lui a demandé combien de fois Pierre m'aimes-tu? 3 fois, hein. Le même nombre de fois qu'il avait renié son maître. Et que lui dit Jésus à la fin? En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais, que tu voulais. J'insiste, hein, sur les syllabes. Mais quand tu seras devenu vieux, un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas. Et vous savez, ce Jésus, il a dit ça à Pierre. Il a dit ça pour indiquer de quelle mort il mourrait plus tard. Mais ça, c'était le côté terrestre. Mais spirituellement, c'est Jésus qui doit nous mener. C'est Jésus qui doit nous ceindre et nous emmener là où on ne voulait peut-être pas avant. Et d'accord? Mais on va se laisser faire. Se laisser ceindre par Jésus pour qu'il nous emmène là où lui, il veut. Et Jésus, il attend de nous une complète obéissance. Il faut qu'on lui obéisse. C'est lui qui va nous mener. C'est plus notre volonté qui doit se faire. C'est la volonté de Jésus. Et je voudrais encore vous laisser avec un dernier petit verset dans Jérémie 10, 23. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et de la même façon, on peut se le dire, ce n'est pas à moi, quand je marche, à diriger mes pas. C'est Jésus qui doit les diriger. Et est-ce qu'on est prêt à laisser Jésus diriger nos pas, diriger notre vie? Et c'est la mort à nous-mêmes, hein. C'est la mort de la chenille pour que le papillon puisse s'envoler. On va retenir ça. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Alors, on va courber courtement nos têtes, on va prier, et dans nos cœurs, on va demander au Seigneur de nous montrer ce qui doit encore mourir en nous et qui est de l'ancien Pierre, pour qu'on puisse revêtir le corps céleste et voir non plus les choses d'une façon terrestre, mais d'une façon céleste, avec les yeux célestes. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu nous as appris au travers de ce personnage de Pierre. Que chacun de nous, on puisse nous identifier, regarder, nous regarder chacun sur ce que nous sommes, nous regarder avec les yeux qui sont les tiens. Et Seigneur, que tu mettes ton doigt sur les choses encore en nous qui doivent disparaître, afin de pouvoir revêtir ces perspectives et ce corps céleste. Seigneur, mets ton doigt dans nos cœurs et ouvre nos yeux pour que nous ayons ce privilège de voir comme toi tu nous vois. Touche-nous chacun, Seigneur, et moi le premier. Amen.